Ceci est la deuxième partie du confinement numéro 3, revenu universel, miracle ou mirage. Dans cette deuxième partie, plutôt contre, nous accueillons Anne Edou. Anne est maîtresse de conférence au CNAM, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail, et ses travaux portent sur l'emploi, les politiques sociales, mais également l'égalité entre les femmes et les hommes. Si vous voulez écouter la partie plutôt pour, avec Baptiste Milondeau, je vous invite à écouter la première partie de ce confinement 3. Bonne écoute.
La première question, elle est toute simple, et on a posé la même à Baptiste, c'est en fait, quel est le terme que vous employez pour désigner ce dont on parle, c'est-à-dire revenu de base, revenu universel? Il y a énormément de termes différents pour un peu désigner un peu la même chose. Allocation, on parle aussi d'essence, substantiel, etc. Quels sont les termes que vous employez dans votre recherche?
Déjà, je ne suis pas une défenseuse du revenu universel et j'utilise le terme de revenu universel. Alors, pour plusieurs raisons, déjà parce qu'il reflète un peu moins peut-être les clivages, je vais en parler un tout petit peu. Je sais que Baptiste Milondeau, que vous avez vu la semaine dernière et entendu la semaine dernière, parle de revenu pour tous. Revenu de base, c'est plutôt des libéraux qui utilisent ce terme et que je trouve un peu trompeur parce que finalement c'est très proche des termes qu'on utilise pour désigner les minima sociaux. Et donc voilà, je voulais revenir très vite sur ce clivage entre les versions néolibérales ou de gauche du revenu universel. C'est-à-dire que dans la version néolibérale, qui n'est pas celle de Baptiste Milondeau, qui est celle, par exemple, de Milton Friedman dans Capitalisme et Liberté en 62, ou bien de Marc de Basquiat et Gaspard Koenig en France, qui proposent ce qu'ils appellent le libère. Dans cette version néolibérale, disons que le revenu de base est un revenu minimum. Chacun bénéficie d'un faible montant qui est destiné à compléter les revenus du travail sur un marché dérégulé. Donc, c'est tout à fait la logique de l'impôt négatif de Milton Friedman. Et si on prend pour le cas français, la proposition de Marc de Basquiat et Gaspard Koenig, donc, qui sont des libéraux, leur proposition est très proche du niveau du minimum social en France, le principal, le revenu de solidarité active ou RSA, pour une personne seule. Et pour les auteurs, il serait financé par une taxe, en fait un impôt qui serait proportionnel au revenu. Donc un impôt qui n'est pas vraiment redistributif, même si son assiette est assez large, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis on a à l'inverse une version de gauche qui est plutôt dans une forme de remise en cause du capitalisme actuel et donc qui propose des montants élevés du revenu universel. Ça c'est l'un des points de vue de Baptiste Milondeau, laisser la possibilité à chacun et à chacune de refuser les mauvais emplois. Donc on avait par exemple en France la proposition de revenu d'existence qui était celle de Gorz dans Métamorphose du travail à la fin des années 80, le revenu pour tous de Baptiste Milondeau. Alors il a un peu varié dans ses propositions, hein. C'était au départ 750 euros par adulte et 230 par enfant. Et puis ensuite, il a un peu revalorisé sa proposition. Et puis, on a aussi en France des versions intermédiaires, celle de Jean-Éric Yafil du Mouvement français pour un revenu de base qui propose de partir sur une version légère, c'est-à-dire un revenu de base assez mince, assez proche de la proposition des néolibéraux, avec dans l'idée à terme d'arriver à quelque chose qui ressemble plus à la proposition de Baptiste Milondeau. Et toujours en France, pour finir le panorama, on a aussi la proposition de Bernard Friot, qui est celle du salaire à vie. Hein. Donc là, l'idée d'une sécurité professionnelle, sécurité sociale qui s'étendrait à la vie professionnelle et qui consisterait à garantir à chacun et à chacune un salaire toute la vie sur le modèle des fonctionnaires. Voilà toutes les propositions. Et je dirais que si je dois me sentir plus proche d'une des versions, ça pourrait être celle de Bernard Friot. Mais je dirais que en proposant son salaire à vie comme un revenu universel, ce qui reste très largement à penser chez lui, et qui est ce que moi j'aimerais bien penser, c'est la question de la garantie de l'emploi. C'est-à-dire comment on organise l'emploi qui va avec ce salaire à vie sans que ce soit un travail obligatoire. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue pour cette première question. Voilà, puis je dirais avec le confinement, on a peut-être aussi le confinement, oui, on a peut-être une actualité de ces questions de garantie de revenus pour les jeunes, dont on sait, en tout cas en France, c'est peut-être la même chose en Belgique, que ils ont été privés de leur petit boulot et on a beaucoup d'étudiants qui se trouvent avoir besoin de l'aide alimentaire. Donc une forme de résurgence de la pauvreté chez des jeunes. Pas forcément toujours des catégories les plus pauvres de la société, même si bien sûr c'est plutôt eux qui sont concernés.
Voilà. Merci. Alors, vous parliez justement de rapport au travail, plus ou moins, on commençait un petit peu à aborder le sujet, et c'est justement le point de notre deuxième question. Ce qui est intéressant, nous, on trouve avec le revenu de base, c'est que ça remet en question justement notre rapport au travail, qui est que dans la société dans laquelle on vit, on est quelque part un peu conditionné à penser que pour être rémunéré, il faut avoir un emploi, il faut que ça soit dans le cadre d'un salaire, et qu'on ne peut pas quelque part être rémunéré simplement parce qu'on existe et parce qu'on contribue d'une autre façon à la société. Et donc, on voulait avoir un peu votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer ce rapport? Si oui, est-ce que c'est un changement positif ou négatif?
Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense qu'on envisage aussi le travail comme quelque chose qui n'est pas l'emploi. Alors surtout avec le confinement, hein, parce qu'on a vu, ça a été le grand retour du travail domestique, notamment pour celles et ceux qui ont des enfants, parce qu'il a fallu faire les repas, les devoirs, des tâches que d'habitude, bien sûr, on effectue, mais pas toujours pour toute la journée, pour tous les repas et encore moins les devoirs. Donc quand les services publics se dérobent, ce travail domestique, il est présent, et donc je pense que beaucoup en sont conscients et conscientes. Et puis par ailleurs, le travail bénévole aussi est très souvent reconnu comme un travail. Enfin voilà, le travail parental, le travail domestique, le travail bénévole sont des travaux qui ont de la valeur pour l'économie, qui lui permettent de tenir. Et ce sont aussi des formes de travaux qui sont hors de l'emploi, mais qui ne donnent pas lieu à un revenu. Et puis, autre chose, quand vous évoquez le fait que notre existence à elle seule ne justifierait pas l'obtention d'un revenu, c'est quand même dans la constitution de la France, mais aussi dans celle de la Belgique. Hein. Alors, j'ai pas le principe constitutionnel belge, mais je me souviens de l'avoir déjà vu. Mais je peux vous citer pour la France, hein, le préambule de la Constitution de 1946 dit que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc voilà, la situation économique fait tout à fait partie des raisons pour lesquelles on peut être privé de revenus. Et en France, en Belgique aussi, où le chômage est important, même avant la crise sanitaire, ce droit à un revenu d'existence, il est tout à fait essentiel. Et en France, ça a d'ailleurs été ce principe de 46, quelque chose de mis en avant au moment, à la fin des années 80, au moment de la mise en place du revenu minimum d'insertion, qui est l'ancêtre du RSA. Et je dirais, si on a eu besoin de rappeler cet article du préambule de la Constitution de 46 en France, c'est parce que dans les années 80, le chômage avait augmenté les allocations chômage, l'accès aux allocations chômage s'était durci. Et donc, on s'apercevait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui n'avaient plus droit à une indemnisation du chômage, mais qui ne trouvaient pas d'emploi. Et d'ailleurs, parmi les premiers concernés, on trouvait les jeunes. Hein, c'est-à-dire que les jeunes étaient davantage exposés à des emplois précaires et surtout, ils avaient une moindre ancienneté dans l'emploi. Et donc, très souvent, le fait d'être jeune faisait que on n'avait pas droit à une allocation chômage. Alors, ceci dit, le RMI et aujourd'hui le RSA n'ont pas tout à fait résolu le problème pour les jeunes, puisque en France, et peut-être aussi le cas en Belgique, les familles ont une obligation alimentaire jusqu'aux 25 ans des jeunes. Et donc, le RMI et aujourd'hui le RSA protègent très très mal les jeunes, hein, en dehors de ceux qui ont des enfants ou dans des conditions très restrictives, les jeunes en France n'ont toujours pas accès aux minima sociaux. Donc, de ce point de vue-là, ben, on a un principe constitutionnel qui existe, mais qui n'est pas mis en œuvre. Et je pense que là, il serait tout à fait essentiel de le mettre en œuvre, d'une part, pour les catégories qui sont pas concernées par les minima sociaux, mais aussi pour les allocataires de minima sociaux pour lesquels on peut pas vraiment dire en France et sans doute en Belgique que les minima sociaux suffisent à assurer des moyens convenables d'existence. Donc il y a des véritables enjeux de répartition, mais je pense que on doit les aborder aujourd'hui avec ce qui existe dans nos systèmes de protection sociale, voilà, qui font que on a des systèmes qui prévoient déjà des garanties de revenus, mais des garanties insuffisantes. Alors, je vois que Anthony Ortiz a intervient. Oui, je pense que effectivement, on trouve un peu partout des droits à la sécurité sociale, des droits économiques et sociaux, en tout cas dans le droit, mais pas forcément suffisamment mis en œuvre dans les différents pays. Mais je pense que chaque fois qu'on veut revendiquer ces droits sociaux, on peut tout à fait se prévaloir des droits de l'homme ou même des conventions, des constitutions des différents pays, parce que très souvent, ces droits existent, enfin voilà, en tout cas sur le papier.
Merci beaucoup. La question suivante. Alors, il y a une critique que certains et certaines font aux revenus de base, c'est que finalement, on le donne à tout le monde, à ceux qui en ont besoin et à ceux qui n'en ont pas forcément besoin. Et que donc, quelque part, on est dans une logique d'égalité, mais pas forcément d'équité. On ne respecte pas forcément le principe de à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Alors, je voudrais juste voilà, avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec, avec ça? Et il y a une deuxième partie dans la question. Celle-ci, elle concerne en fait les mécanismes d'inégalité et d'oppression dans la société. Est-ce que vous pensez que le revenu de base pourrait aider à les amoindrir ou à les aggraver, et on pense particulièrement en fait au privilège masculin et à l'oppression sexiste qui va avec dans la répartition, comme on en parlait tout à l'heure, du travail gratuit et le risque de retour au foyer des femmes si on mettait en place un revenu de base.
Alors oui, je pense que dans votre question, vous avez raison d'évoquer la domination masculine, parce que dès lors qu'on pense les inégalités entre les sexes, hein, mais c'est des questions qu'on peut décliner pour plusieurs types d'inégalités, ça engage à penser la question des inégalités et de l'égalité d'une manière un peu nuancée. C'est-à-dire, est-ce que on peut obtenir l'égalité en donnant le même droit à un même revenu à toutes et tous? Ou est-ce que l'égalité, c'est autre chose que simplement donner les mêmes droits à tous, mais c'est s'assurer de l'effectivité de ces droits et de voilà, une forme d'égalité dans les situations. C'est-à-dire que le revenu de base, il soulève des questions, hein. C'est un revenu issu de la protection sociale, donc qui serait un revenu de redistribution. Or, les inégalités sociales, celles qu'on observe aujourd'hui dans le monde néolibéral, où est-ce qu'elles se nouent ? Elles se nouent dans les revenus primaires, hein, c'est-à-dire dans la répartition initiale des revenus et pas dans la redistribution. Et donc, si on s'intéresse à la répartition des revenus, à ce qui se passe dans l'emploi, sur le marché du travail, on constate que dans le monde, dans le capitalisme néolibéral et surtout dans la version financiarisée qui prédomine depuis 40 ans, on a une augmentation des inégalités de revenus avec certains, et d'ailleurs surtout des hommes blancs qui accumulent des revenus faramineux, principalement des revenus du capital, et puis d'autres qui, tout en travaillant parfois avec des conditions de travail difficiles, dégradées, mais complètement dévalorisées, ont du mal à boucler leur fin de mois. Et donc, il y a un problème majeur dans le néolibéralisme qui est les écarts de revenus, et d'ailleurs singulièrement entre les femmes et les hommes. Hein. On a vu pendant la période de confinement, d'ailleurs, que parmi les personnes qui continuaient à travailler, il se trouvait beaucoup de femmes parmi les soignants, soignantes, aides-soignantes, infirmières, médecins aussi, même si plus on descend dans la hiérarchie des emplois et plus elles sont surreprésentées, parmi les caissières ou bien d'autres métiers dévalorisés parmi les personnes qui ramassent les déchets, qui eux sont plutôt des hommes. Mais en tout cas, dans tous les métiers non qualifiés, on trouve énormément de métiers tout à fait essentiels et dévalorisés. Et donc, je dirais, la solution pour ces inégalités primaires qui se nouent dans l'emploi, elle peut pas résider simplement dans la protection sociale et dans la redistribution. Alors, bien sûr, l'un des éléments pour réduire les inégalités, et surtout dans la crise actuelle, il réside dans la fiscalité, hein, c'est-à-dire, je sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais c'est quand même le cas dans beaucoup de pays européens. En France, on a considérablement allégé la fiscalité sur les ménages les plus aisés, notamment dans la période récente, hein, avec la fin de l'impôt sur la fortune. Et puis, on a aussi considérablement allégé les impôts sur les entreprises, notamment les grandes entreprises. Et donc, bien sûr, il y a des besoins de redistribution et une fiscalité beaucoup plus redistributive passerait aussi par des impôts nettement plus progressifs. On en a eu dans l'histoire, hein, dans la période d'après-guerre, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, la progressivité de l'impôt était bien plus forte. Donc ça, c'est un élément, mais il y a aussi un élément qui est dans la définition des revenus primaires, hein. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un enjeu majeur là aujourd'hui qu'on peut observer avec le confinement. Belgique paradis fiscal pour les revenus du capital. Oui, je pense que le néolibéralisme, c'est un peu le même combat partout, hein. Ça prend des formes avec des différences un peu subtiles selon les pays, mais on a des tendances très communes. Et donc, je dirais, il y a quand même un enjeu majeur qui est la question des salaires, hein. C'est-à-dire qu'on a des emplois essentiels, des emplois qu'on considère comme des sales boulots, dont on accepte la dévalorisation, mais je pense que on voit aujourd'hui qu'ils sont essentiels, hein. Il y aurait sans doute eu bien plus de morts si ces sales boulots n'étaient pas assumés. Et je pense qu'il serait temps de les revaloriser, mais à tout point de vue, c'est-à-dire de faire que ces emplois-là soient moins sales, soient plus vivables. Dans certains cas, d'ailleurs, ils sont vivables. Hein. Je pense que les aides-soignants, les aides-soignantes sont conscients de la valeur de leur travail, mais souvent, ils l'exercent dans des conditions qui sont telles que voilà, ils sont devenus invivables parce que l'hôpital manque de ressources. Enfin, je pense à la France, mais c'est peut-être pas très différent ailleurs. Et donc voilà, il y a des questions de travailler sur les conditions de travail de ces emplois, sur les salaires à revaloriser. Et bien sûr, dès lors qu'on revalorise les bas salaires, eh bien peut-être que ça entamera les profits à redistribuer pour les plus riches. Donc je pense que tout ça doit se penser ensemble et que si on espère réduire le problème des inégalités et de la pauvreté avec le revenu de base, eh bien on ne regarde qu'une partie du problème. Et je pense que voilà, l'essentiel, c'est quand même la question des revenus primaires et de la répartition primaire autant que celle de la redistribution. Et puis bien sûr, vous l'avez évoqué dans votre question, si le revenu universel consiste à donner à tout le monde la même chose, riche ou pauvre, eh bien, c'est pas redistributif, hein, c'est-à-dire que ça consiste à laisser en l'état les inégalités, et puis ça pose des problèmes de financement. Alors, Baptiste Milondo, dans son ouvrage, j'ai peut-être pas lu les choses les plus récentes, parle de taux d'imposition à 100% à partir de certaines tranches de revenus. C'est des choses que souvent il assume un peu moins à l'oral. Mais bien sûr, il faudrait des impôts confiscatoires, mais même ainsi, c'est-à-dire qu'avec un revenu de base généreux, en fait, on atteint des montants qui sont du même niveau que le financement, en tout cas pour la France, que le financement de l'ensemble du système de protection sociale. Et donc, voilà, est-ce que ça veut dire qu'on doit renoncer à des services publics pour financer ça? Est-ce que ça veut dire qu'on doit renoncer au plein emploi? Voilà, donc je pense qu'il y a aussi d'autres questions, hein. Moi, je renonce pas aux questions d'emploi. Et puis, je pense, si on pense aux inégalités hommes-femmes, oui, un revenu de base, un revenu universel, le même donné à tout le monde, même relativement généreux, il pourrait être une forme d'institutionnalisation des inégalités, c'est-à-dire l'acceptation de la polarisation des emplois et des revenus. Donc Baptiste Milondo dit que ça serait une solution parce qu'on ne serait pas obligé de faire les sales boulots. Mais si on pense aux inégalités entre les femmes et les hommes, les sales boulots, ils ont tendance à échoir aux femmes. Donc je pense que on a intérêt à professionnaliser les emplois, à faire en sorte que aucun emploi ne soit considéré comme un sale boulot. Hein, voilà, ça suppose de réfléchir à l'organisation du travail et aux revenus. C'est un chantier considérable, hein, de dépolariser les emplois. Je pense que c'est un chantier qui doit être mené en même temps qu'une transition écologique. Et donc, voilà, je pense que c'était d'ailleurs la réticence qu'avait Gors dans les années 80 avant de se rallier à l'allocation universelle, hein, l'idée que on ne doit pas renoncer à l'emploi en ayant le souci d'améliorer la protection sociale. Voilà. Et puis pour les inégalités entre femmes et hommes, si on prend par exemple, pour illustrer hein, le problème que ça pose, si on prend les propositions de revenus universels, j'avais travaillé là-dessus avec Rachel Silvera dans les années 80, on trouve en fait beaucoup de propositions qui, de manière plus ou moins avouée, disent que finalement, ça permettra aux jeunes qui veulent travailler de trouver un emploi et aux femmes qui veulent s'occuper de leurs enfants, de s'occuper de leurs enfants. quand on regarde aussi, par exemple, l'expérience qui a été faite en Finlande, alors c'est tout sauf un revenu universel, mais en tout cas, dans les discours pour défendre les expérimentations finlandaises, il y avait bien l'idée que des femmes allaient pouvoir s'arrêter de travailler, pour s'occuper qui de leurs enfants ou qui de leur mère âgée et dépendante. Donc, bien sûr, il y a ce risque-là d'un impensé des inégalités entre les femmes et les hommes et de concevoir le revenu universel comme étant une possibilité de salaire maternel ou de salaire pour femmes au foyer.
J'aime beaucoup le fait de recentrer sur certains autres objectifs pour atteindre plus d'égalité et peut-être que c'est on regarde peut-être là où c'est pas où il faut pas regarder et on oublie les priorités. Donc merci de le rappeler. La prochaine question qu'on a, c'était justement entre la question de ce revenu universel et qui peut être comprise comme un peu une vision individualiste de la protection sociale. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport de la relation entre ce revenu universel et les principes de la sécurité sociale qui sont beaucoup plus qui portent des valeurs beaucoup plus collectivistes, on va dire. Et nous, on pense aussi à l'alternative de la réduction collective du temps de travail, si c'est pas une solution qui serait davantage bénéfique, en fait, dans ce genre d'objectif public.
Alors, je vais répondre, mais d'abord, je vais répondre aux questions là qui ont été faites au fil de mon intervention. Des gouvernements qui revalorisent les très bas salaires en les finançant par des taxes sur les moyens salaires. Alors, je sais pas si c'est tout à fait ça, parce que quand on revalorise les bas salaires dans les entreprises, en principe, c'est les entreprises qui payent. Alors, à moins que Claude veuille parler des allègements de cotisations sur les bas et moyens salaires qui peuvent effectivement créer des phénomènes de trappe à bas salaire. Voilà, ça c'est un problème, hein, mais c'est bien le néolibéralisme hein, qui consiste à toujours alléger les taxes des entreprises par tout moyen. Mais il faut savoir que, par exemple, les cotisations, en Belgique comme en France, ça finance la protection sociale et donc des allègements de cotisations, ça peut pas financer du pouvoir d'achat. Donc là, on est bien d'accord. Je voulais juste répondre aussi à 48 qui évoque la question du milieu de la culture. Donc si j'ai bien compris, je suis pas sûre de bien comprendre d'ailleurs. Non, je suis pas sûre de bien comprendre. J'ai cru que l'idée c'était que le revenu de base permettrait de soutenir le revenu des personnes qui travaillent dans le secteur de la culture et qui ont des emplois précaires. Alors en France, on a les intermittents du spectacle, donc je sais que certains défendent l'idée d'un revenu universel justement pour soutenir le revenu des intermittents du spectacle, mais je pense que si c'est ce qu'a voulu dire 48, je pense que l'idée, c'est quand même de faire en sorte que, quel que soit le secteur, on organise des rémunérations qui permettent de vivre dignement, même si la protection sociale doit toujours proposer des filets de sécurité. Donc, je vais répondre maintenant à votre question. Donc, vous avez raison quand vous dites que le revenu universel, très souvent dans les propositions, c'est une proposition d'un revenu qui serait proposé pour des personnes, des individus, alors que le système de protection sociale dans son ensemble et les minima sociaux en particulier, c'est ciblé sur le ménage. Hein. Donc ça tient compte du ménage, du foyer, des ressources du foyer et de la composition du foyer. Donc si je prends en France, mais c'est une construction très habituelle des minima sociaux et des garanties de revenus. Les minima sociaux, eh bien typiquement, ils sont destinés à garantir le revenu du foyer et donc ils tiennent compte à la fois de l'ensemble des ressources du foyer et de la composition du ménage. Plus on a d'enfants, plus le revenu garanti est élevé. Mais bien sûr, quand on est en couple avec quelqu'un qui gagne déjà un revenu qui fait sortir des seuils minimums, ben, on n'a pas le droit du coup à un soutien individuel. Et ça, c'est vraiment une question très importante. Et je pense que, alors, on a rédigé en France avec les économistes atterrés, avec ATTAC et la Fondation Copernic. D'ailleurs, c'était peut-être juste Copernic et atterré. Je me souviens plus. On a rédigé un petit livre sur le revenu universel et on proposait quand même de réformer les garanties de revenus pour avoir une personnalisation plus grande des droits sociaux. C'est-à-dire que finalement, alors en tout cas, moi, c'est comme ça que je le défends dans mes travaux sur le genre et sur l'emploi. Ce qu'on observe en France, mais dans beaucoup de pays européens, je sais que c'est le cas en Allemagne, notamment depuis les lois Hartz, on observe que les allocations chômage, les droits aux assurances chômage sont devenus de plus en plus difficiles d'accès. Alors l'accès à l'assurance chômage s'est durci en France dès les années 80. J'ai parlé tout à l'heure des jeunes, mais ça vaut aussi pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes, un tiers d'entre elles presque sont à temps partiel en France, et les droits à indemnisation du chômage pour les travailleurs à temps partiel se sont dégradés dans les années 80 et surtout 90. Et donc, voilà, pour un certain nombre de demandeurs d'emploi, pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, mais ça concerne particulièrement les femmes, les durées d'indemnisation du chômage se sont raccourcies, les montants se sont réduits. Et donc, dans certains cas, au bout d'un certain temps qui peut être assez court, beaucoup de demandeurs d'emploi perdent leur droit à indemnisation. Et quand ils sont en couple, et singulièrement quand ce sont des femmes en couple, et que ces personnes en couple ont un conjoint qui gagne un revenu suffisant, pas forcément suffisant pour être à l'aise, mais suffisant pour sortir le ménage du seuil de pauvreté, ben on passe d'un droit à une allocation chômage à rien du tout, quand bien même on serait toujours demandeur d'emploi. Et donc ça, c'est des phénomènes qui se sont amplifiés. Alors on l'a vu aussi, ça a été mesuré par des enquêtes en Allemagne au moment du passage des lois Hartz. Beaucoup de femmes ont perdu tout droit à l'indemnisation du chômage. Et donc de ce point de vue-là, la familialisation des minima sociaux, le fait qu'ils soient conditionnés notamment au revenu d'un conjoint, eh bien c'est problématique parce que parfois on est vraiment, je renvoie toujours au préambule de la Constitution de 46, on est parfois dans une situation de privation d'emploi en raison de la situation économique et pourtant on n'a aucun droit personnel à un revenu de substitution quand bien même on serait demandeur d'emploi, demandeuse d'emploi, chercheuse d'emploi, voilà. Donc je pense que la question de la personnalisation des droits, elle me semble essentielle. Et je pense qu'il y aurait un autre équilibre à trouver. Aujourd'hui, que beaucoup de femmes travaillent et sont exposées aussi à des formes de précarité, je pense qu'il y aurait un autre équilibre à trouver entre des droits personnels et des droits familiaux. Il me semble aussi tout à fait essentiel de tenir compte de la composition du foyer. Bien sûr, une famille avec des enfants, on l'a vu aussi en période de confinement, quand il n'y a plus de cantine et que dans les quartiers pauvres, beaucoup de mairies avaient mis en place une forme de gratuité des cantines. Ça fait des frais supplémentaires pour des familles, que ça peut précipiter aux soupes populaires, à l'aide alimentaire. Et donc, il est tout à fait essentiel à la fois de garantir des revenus personnels, mais aussi de tenir compte de la composition de la famille, de la présence d'enfants, et puis aussi du fait que dans la famille, il y a un ou plusieurs adultes, les familles monoparentales partout en Europe, en France, c'est à peu près un tiers, sont très exposés à la pauvreté. Et donc, évidemment, il faut aussi prévoir pour ces familles des suppléments. Et donc, c'est vrai, le revenu universel a l'intérêt de personnaliser cette question. Et je pense que la question de la personnalisation des droits sociaux est tout à fait essentielle. Alors, dans la deuxième partie de votre question, vous parlez Alors, si je ne me trompe pas, parce que là, je crois que j'ai perdu... oui, c'est ça. Vous parlez de la réduction du temps de travail. Je pense que... oui, c'est quelque chose d'essentiel, hein, c'est-à-dire que dans les leviers contre de nouvelles offensives néolibérales, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui en Belgique, mais là en France, en plein confinement, on a eu des demandes du MEDEF pour préparer le déconfinement, donc le MEDEF c'est la principale organisation patronale, des demandes de partis de droite ou d'instituts de forme de fondation de droite pour allonger le temps de travail, hein, sans augmenter les salaires. Et donc ça, je pense, c'est une offensive majeure du néolibéralisme d'aujourd'hui, avec pour argument qu'il faut relancer l'économie en allongeant le temps de travail. Et je dirais, la droite est assez confortable pour faire, je vois que c'est pareil en Belgique, la droite est assez confortable, en tout cas en France, pour faire ses demandes, puisque dès le début du confinement, le gouvernement a pris dans ses mesures d'urgence des mesures d'allongement du temps de travail pour les soignants, hein, donc là c'est pour les fonctionnaires, donc augmentation des plafonds d'heures supplémentaires, parce qu'il y avait des besoins à l'hôpital, hein, sachant que l'hôpital a vécu des périodes d'austérité sans précédent en France et était déjà complètement à l'os avant d'aborder la crise sanitaire. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que de faire travailler encore beaucoup plus les soignants. Donc, il y a eu d'abord cette réforme qui a concerné l'hôpital public et puis tout de suite après, une réforme qui a aussi consisté à permettre l'allongement du temps de travail au-delà des plafonds dans les secteurs jugés vitaux pour l'économie, donc on peut penser le commerce, alimentaire, etc., des secteurs là pour le coup privés. Et j'ai pas vérifié récemment dans le droit, mais en tout cas pendant très longtemps, la définition juridique des secteurs vitaux qui pourtant était promise par la ministre du Travail n'est jamais venue. Et donc, toutes les entreprises qui fonctionnaient encore ont pu décréter qu'elles étaient vitales et allonger le temps de travail de cette manière-là, y compris avant le déconfinement. Et donc, je pense que la question du temps de travail est tout à fait fondamentale. Aujourd'hui, on va avoir, que ce soit en France ou sans doute dans beaucoup de pays européens, une augmentation du chômage qui a déjà commencé et qui risque de se prolonger d'une ampleur qu'on a du mal à mesurer, hein, qui sera plus ou moins importante. Et donc, bien sûr, augmenter le temps de travail, c'est pas du tout une urgence, hein. Il faut au contraire partager le travail, donc faire travailler les personnes plus nombreuses. Et je pense que la question du temps de travail, elle est d'actualité aujourd'hui, là, avec le déconfinement et le problème du chômage, et elle est d'actualité à plus long terme avec l'urgence de la transition écologique. Voilà.
Merci beaucoup. Très complet aussi. Je vais me permettre de changer la question qu'on vous avait posée à la suite.
Oui, mais allez-y, bien sûr.
Pour celle de Baptiste, en fait.
Ouais.
Parce qu'en fait, vous mentionnez justement la personnalisation des droits et toutes ces formes de droits selon les allocations familiales, selon les conditions spécifiques de vie et les caractéristiques de chacun. Et justement, la question de Baptiste porte sur ça. Il demande, à partir du moment où on s'oppose au revenu inconditionnel, si on a une proposition alternative, quelles sont les conditions d'accès? Quelles conditions on souhaite poser d'accès à un revenu décent? Quelles sont les contreparties qu'on va demander et du coup, quels sont les exclus? Qui n'y aura pas droit? Si on est de gauche, il faut se poser la question, qui n'a pas le droit à un niveau de vie décent? À qui on va dire, vous avez le droit à rien? Alors, voilà, c'est un peu plus provocatif, donc je voulais répondre à
ça. Oui, c'est une très bonne question. Ça, c'est un point que je voulais aborder et du coup, ça me permet de le faire parce que je crois que j'avais mis quelques notes en dessous de vos questions, mais je crois que je l'avais pas mis celui-là. C'est qu'en fait, on a eu une tendance, alors là, pour le coup, vraiment partout en Europe, à l'activation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce terme, mais l'idée que finalement, l'urgence, c'était d'inciter les chômeurs à reprendre un emploi, puis d'inciter les allocataires de minima sociaux à faire de même. Alors, l'activation des chômeurs, elle est un peu ancienne, hein, c'est-à-dire que alors c'est intéressant historiquement de s'interroger là-dessus, parce que si on prend je pense à la France, mais je pense vraiment que c'était sûrement avec des chronologies différentes, je pense que c'était sûrement à peu près pareil partout en Europe. Oui, voilà, activation, traverser la rue pour trouver un job, dixit Macron. Je répondrai tout à l'heure à 48, j'ai pas le temps de lire son texte et de répondre en même temps. Si on prend l'histoire de la protection sociale en France, on peut dire d'abord, l'assurance chômage, elle n'a pas été mise en place tout de suite en 46. Hein. L'urgence, ça a peut-être été les vieux, les invalides, etc. Et l'assurance chômage, l'UNEDIC, c'est 58. Hein. Et déjà, c'était un petit peu moins favorable que la série de protection qui s'était mise en place dès 45. Mais quand même, de 58 aux années 60 et même au début des années 70, on avait un système d'assurance chômage très généreux, hein, qui permettait aux demandeurs d'emploi de percevoir 90% de leur salaire pendant une durée assez longue. Et à l'époque, personne ne se posait la question du fait de savoir si ça risquait de les décourager de trouver un emploi. Et de fait, les demandeurs d'emploi, tout en touchant 90% de leur salaire, en général, ils n'allaient pas au bout de leur indemnisation et ils trouvaient un emploi. C'est-à-dire que tant qu'on était au plein emploi, les gens trouvaient un emploi. Et même en France, on a mis en place une allocation de parents isolés en 76. Et là, il s'agissait d'éviter aux mères seules, soit après un divorce, soit après un veuvage, d'être obligées de chercher immédiatement un emploi, parce qu'il y en avait quand même qui ne travaillaient pas. Et la crainte du législateur était pas du tout que ça les décourage de trouver un emploi. La crainte du législateur, c'était que du coup, le conjoint se sente plus obligé de payer la pension alimentaire. Et de fait, les études sur ces mères isolées en France qui touchaient l'allocation de parents isolés ont montré qu'elles retrouvaient un emploi avant les 3 ans de l'enfant, c'est-à-dire avant la fin de leurs droits. Et pourtant, à ses débuts, cette allocation de parents isolés, elle était légèrement supérieure au SMIC à temps complet. Donc, c'est pour vous montrer que les garanties de revenus pouvaient être très généreuses et pourtant ne pas décourager les gens de chercher un emploi. Et personne d'ailleurs ne pensait à utiliser ce terme de décourager les gens de travailler. Et donc, cette question, elle s'est posée dans les années 80, à la fin des années 80 en France. Ça peut être d'autres agendas dans d'autres pays où tout d'un coup, on s'est dit « Oh là là, le chômage est très important, c'est que les indemnités de chômage sont trop généreuses. » Alors, en fait, on pointait les indemnités de chômage parce que l'UNEDIC était en déficit. Hein. L'UNEDIC qui avait été conçue pour verser des indemnités de chômage en période de plein emploi, elle a subi le choc du chômage avec un patronat qui était devenu plus puissant et qui refusait d'augmenter les cotisations. Et donc, à ce moment-là, on s'est mis à changer de discours et ça a été la vague de l'activation des chômeurs. Donc, on cherchait comment les inciter à travailler, comment Pôle emploi, enfin à l'époque, c'était l'ANPE, peu importe, comment Pôle emploi allait les accompagner, les sanctionner. Enfin, toutes ces questions-là sont arrivées vraiment sur le tard dans une période de chômage massif. Et du coup, bah, je dirais, on s'est mis à maltraiter les chômeurs alors que objectivement, on n'avait pas assez d'emplois à leur proposer. Et puis ensuite, cette préoccupation, bah, elle s'est étendue aux minima sociaux, d'abord le RMI, puis le RSA, où on s'est dit, bah, les allocataires de minima sociaux, faut quand même qu'ils fassent des efforts pour travailler. Et on s'est mis à faire la chose la plus absurde qui soit, c'est-à-dire à prévoir des sanctions pour les allocataires de minima sociaux qui refuseraient un emploi, alors que au départ, dans la loi en 88-89, dans les débats parlementaires, l'idée c'était que cette insertion et ce revenu, c'était une ardente obligation de la collectivité. Et donc, la droite critiquait le fait qu'il n'y ait pas assez de contrepartie, mais précisément, c'était l'objectif du RMI. Hein, c'est-à-dire un revenu d'insertion, mais qui était un revenu que la collectivité avait l'obligation de verser. Et donc là, aujourd'hui, on a le RSA, alors c'est pas seulement la réforme RSA, en réalité, il y a eu une succession de réformes qui fait que les allocataires du RSA, y compris d'ailleurs des mères d'enfants, des mères isolées d'enfants de moins de 3 ans, risquent d'être sanctionnés quand ils refusent un emploi ou quand ils se rendent pas à des convocations. Or, qu'est-ce qui se passe? Là, on a en fait un revenu qui a été défini pour des familles, et donc c'est des familles avec enfants qui peuvent se voir privées d'une partie du revenu quand un parent a refusé un emploi pour une raison qui éventuellement est une bonne raison. En tout cas, c'est à l'appréciation des conseillers qui l'accompagnent. Et donc voilà, on est aujourd'hui dans une situation d'exclusion. Donc, bien sûr, je ne suis pas pour un revenu qui serait donné à toutes et tous, riches et pauvres, mais je pense que il faut qu'on ait des socles de revenus inconditionnels pour les ménages les plus modestes, et puis des socles aussi un peu revalorisés, c'est-à-dire que ils ne maintiennent pas des familles dans la dépendance par rapport à l'aide sociale, enfin dans une situation qui ne permet même pas d'être dans une situation où on peut rechercher un emploi. Voilà. Dans les minima sociaux, il faut savoir que il y a des ménages pauvres, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé chroniques, que ce soit santé mentale, cancer, etc. C'est aussi ça les allocataires des minima sociaux. Hein. Il y a des gens précaires, mais il y a aussi des gens malades. Voilà, donc il y a toute une gamme de situations et l'activation de ce point de vue-là est devenue une aberration, en tout cas dans une période où on n'est pas en plein emploi. Je pense que si on était au plein emploi, on pourrait reconsidérer des formes d'accompagnement pour ramener les personnes vers l'emploi, mais enfin, des formes d'accompagnement douces, hein, je ne parle pas de sanctions, mais là, on est dans une situation où l'activation devient aberrante. Voilà. Donc, je suis favorable à un revenu inconditionnel, mais pas pour les plus riches.
Il y avait une remarque d'une jeune femme, j'arrive pas à remonter le chat, j'ai un petit problème technique, mais qui disait qu'en gros, elle ne comprenait pas le lien entre le fait d'avoir un revenu de base et le risque de retour des femmes au foyer, parce qu'au contraire, les femmes au foyer dépendent complètement des revenus de leur conjoint, alors qu'avec un revenu de base, elles auraient un début d'indépendance et une possibilité de partir, si la question se pose. Ensuite, il y a la remarque de 48 qui disait que c'est pas si évident que ça d'avoir ce qu'on appelle en Belgique le statut d'artiste, et que le revenu de base permet en fait de ne pas se retrouver dans la précarité, où c'est encore plus difficile de faire les démarches administratives pour avoir le statut. Et il y avait la remarque de Claude qui dit « On peut donner un revenu de base à tous et puis se servir de la fiscalité pour refaire de la répartition en taxant davantage les hauts revenus. » Voilà, je laisse vous laisser déjà répondre à ces remarques-là avant la suite.
Alors sur la question des femmes, j'ai pas vu passer la question, mais je pense que il faut regarder les montants des revenus de base qui sont proposés. Hein, dans la version libérale, on est autour de 400-500 euros, donc c'est pas mieux que le RSA actuel en France et que peut-être les garanties de revenus en Belgique. Et une femme qui quitte son conjoint, eh bien, elle a droit à ses revenus. Il faudrait même souhaiter qu'elle ait droit à des revenus plus élevés. Et même dans les versions les plus généreuses, le revenu personnel est pas forcément très élevé. Hein. Donc, je vois pas pour des personnes qui ont besoin d'un revenu, je vois pas tellement le progrès du revenu de base de ce point de vue-là, mais encore une fois, ce que j'ai bien dit, c'est que il me semble que pour des personnes qui sont demandeuses d'emploi, qui sont donc privées d'emploi compte tenu de la situation économique, moi j'ai l'habitude de raisonner avec le préambule de la Constitution française, il me semble qu'il est tout à fait essentiel de donner des droits à un revenu. Et donc, de ce point de vue-là, cette femme qui cherche à s'émanciper, je pense qu'effectivement, dès lors que elle est demandeuse d'emploi, il est tout à fait logique qu'elle ait droit à un revenu. Voilà. Mais je ne vois pas ce que changerait le revenu de base à ça. Par rapport à la personnalisation des droits.
Je ne sais pas si vous voulez revenir sur les remarques sur le statut d'artiste ou sur...
Alors oui,
sur le statut d'artiste,
alors il faut que je relise parce que oui, c'est ça. Nombreux sont des chômeurs ou au revenu minimum. C'est pareil, c'est-à-dire que je vois pas la différence entre un revenu de base et un revenu garanti. C'est-à-dire que bah, pour moi, il est évident qu'il faut deux choses, je dirais, dans le monde du spectacle. Je pense que peut-être il faut repenser l'emploi pour que cette forme d'intermittence soit subventionnée par les institutions de la culture, hein, d'une façon ou d'une autre, soit prévoir des filets de sécurité qui, pour tous les précaires d'ailleurs, quels qu'ils soient, garantissent un revenu suffisant. Donc voilà, moi je suis pas la seule chose que le seul élément que je critique sur le revenu de base ou le revenu universel, c'est que le distribuer aux classes moyennes ou aux plus riches, ça me paraît augmenter démesurément ces montants à repartir, au risque de mettre en danger l'ensemble du système de financement de la protection sociale, alors que on a dans l'ensemble des pays d'Europe un système socio-fiscal qui fait que les revenus des ménages sont suffisamment connus, mesurés, etc., pour qu'on puisse calibrer des garanties de revenus, et que compte tenu du système existant, on peut tout à fait définir des garanties de revenus qui soient d'un meilleur niveau que les garanties actuelles et qui soient beaucoup moins conditionnelles, sans toute cette dimension d'activation, qui soient beaucoup moins conditionnelles à la reprise d'un emploi. Voilà. Donc, je pense que, voilà, de ce point de vue-là, on peut tout à fait garantir un revenu de base, mais qui soit pas versé à tout le monde, puisque on a les moyens de définir qui on a besoin. Je pense qu'il faut des réformes des minima sociaux, mais pas dans le sens revenu universel. Je sais pas si je réponds à toutes les questions, et je pense aussi qu'on n'a pas besoin du cauchemar bureaucratique actuel, hein. D'ailleurs, je dois dire qu'il n'existe pas que dans la distribution des assurances chômage ou des minima sociaux. Le nouveau management public, c'est diffusé à l'ensemble des organismes de protection sociale, de sécurité sociale, à l'hôpital aussi. Et donc, voilà, ça, je pense que la gestion du système de protection sociale, elle est à revoir, et qu'elle était beaucoup plus performante dans les années 70 qu'elle n'est devenue dans le monde néolibéral. Donc, il y a vraiment des questions de gouvernance de la protection sociale, mais qui sont même bien plus larges que dans la manière de distribuer les allocations, voilà. Tout est devenu conditionnel, que ce soit le financement des hôpitaux, le versement des prestations sociales, et voilà, je pense que là, il y a beaucoup à retravailler. Et puis, il y avait une question aussi sur la fiscalité. On peut donner un revenu de base à tous et se servir de la fiscalité pour reprendre riche, ainsi l'égalité devient équité. Alors, oui, mais alors là, quand vous pensez à la fiscalité sur les plus riches, je pense que vous n'avez pas dans l'idée que c'est une fiscalité qui va servir à verser un revenu le même à tous, riches et pauvres et classe moyenne. Hein. C'est-à-dire que même avec une fiscalité très confiscatoire pour les plus riches, on ne pourra pas reverser une allocation à tout le monde et maintenir les services publics et le système de protection sociale. Et donc, encore une fois, bien sûr, je pense surtout dans la situation actuelle que il faut une fiscalité beaucoup, beaucoup plus progressive et étalée, y compris sur les revenus des capitaux. Mais c'est bien pour garantir des revenus beaucoup plus décents à l'ensemble de la population. Voilà, et sans mettre aucune condition de reprise à l'emploi pour les filets de sécurité que sont les minima sociaux.
Les questions d'Anthony, il demande quelles sont les solutions pour financer le revenu universel. D'après ce que moi je comprends, c'est que vous avez déjà dit qu'il y a un risque à ce que si on le met en place maintenant, ce serait plutôt les services publics et ce qui est déjà en place, comme la sécurité sociale et toutes les allocations de minima sociaux, etc., qui en pâtiraient. Si vous voulez ajouter quelque chose, il a deux autres questions.
Alors, je regarde la question du financement. Donc, je peux revenir un petit peu là-dessus. Hein. Donc, quand on, moi, j'ai regardé un petit peu les financements des projets en France. D'ailleurs, déjà pour une première réponse très simple, hein, en France, vous savez peut-être qu'au moment des présidentielles de 2016-2017, enfin pendant toute la campagne présidentielle, on avait en réalité deux candidats qui défendaient un revenu universel, alors qu'il appelait revenu de base, revenu universel, revenu pour tous, enfin bon, bref. C'était à droite une candidate qui a pas passé le cap de la primaire, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc peut-être son revenu universel lui a coûté sa place, mais elle s'appuyait sur les propositions néolibérales de Basquiat et Koenig, hein, donc l'idée que on aurait un revenu de base de bas niveau garanti à tous, avec financé par une flat tax, hein, donc un impôt pas du tout progressif, hein, donc l'inverse de ce qu'on veut défendre. Et puis l'autre candidat de gauche, c'était Benoît Hamon. Alors c'est d'ailleurs grâce au revenu universel qu'il a passé le cap de la primaire, puisque personne ne l'attendait comme victorieux à la primaire socialiste. Et puis une fois qu'il a gagné la primaire, en fait il a complètement revu son projet, c'est-à-dire que au départ il avait un projet dans les termes de revenu universel versé à tous, riches ou pauvres, et financé par une taxe sur les robots. Et puis quand même, comme il y avait des économistes sérieux comme Thomas Piketty dans son équipe, hein, et d'autres, il a revu son projet dès qu'il est devenu présidentiable, et là c'était plus un revenu universel, c'est devenu une revalorisation des minima sociaux et une extension des minima sociaux vers les jeunes. Donc, alors il y avait moi quelque chose que j'aimais pas du tout dans le discours de Benoît Hamon, c'était un discours très fin du travail, hein, auquel je crois pas du tout. Mais à part ça, je dirais qu'il avait une proposition sur les garanties de revenus qui est assez proche de celle que je peux défendre, hein, c'est-à-dire une revalorisation des minima sociaux, une extension des minima sociaux aux jeunes, et puis quelque chose de moins conditionnel. Donc je dirais, dès lors que on cherche à défendre un revenu universel qui soit défendable, finançable, tout de suite on revient à l'idée non plus d'un revenu versé à tous, inconditionnel, riche et pauvre, hein, inconditionnel au sens où il serait versé à chacun et chacune, quel que soit son revenu, mais on revient à quelque chose qui soit une garantie de revenu soutiennent un niveau de vie décent, ce qui n'est pas quand même le cas d'une bonne partie des minima sociaux aujourd'hui en Europe. Ça a été montré par exemple par les travaux de Béa Cantillon que l'activation a servi en réalité à dévaloriser sur le long terme les minima sociaux. Donc voilà, je pense que dès lors qu'on réfléchit au financement du revenu universel, on a un problème, hein. Donc j'ai regardé en France les propositions de Baptiste Milondo et de Jean-Éric Yafil. Ben en fait, on tombe sur des montants qui représentent l'équivalent de l'ensemble des dépenses du système de protection sociale, et on se trouve devant un dilemme, hein, c'est-à-dire que si on prend la proposition de Milton Friedman, hein, qui est un peu le père du revenu de base, du revenu universel dans sa version néolibérale, Friedman disait à propos, lui il appelait ça l'impôt négatif, que ça procure une aide sous la forme la plus utile à l'individu, à savoir en espèce du cash. Parler de cash, ce terme américain. Donc, voilà, la vraie question, et ça, c'était le projet de Friedman, est-ce qu'on doit remplacer notre système de protection sociale et les services publics par du cash et avoir une société de consommateurs, ou bien est-ce que le problème, c'est de s'attaquer aux inégalités, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, dans l'emploi, donc à la question des salaires, d'une part, et puis d'autre part, à la redistribution et la garantie pour les ménages en difficulté d'un revenu suffisant pour vivre et d'un revenu qui ne soit pas conditionnel. Voilà. Mais l'inconditionnalité, c'est plutôt au sens de la condition d'activité ou de pauvreté méritante. Hein. Voilà l'idée qui s'est répandue qu'on doit mériter toute forme d'allocation. Ça, je suis pas d'accord avec cette idée-là. Par contre, je suis pour la conditionnalité au revenu. Ça ne sert absolument à rien de donner un revenu aux classes moyennes et aux plus riches alors que le système socio-fiscal permet parfaitement de les identifier.
Il y avait la deuxième question de Anthony qui était quel serait l'impact d'un revenu universel sur l'allocation de chômage, par exemple. Mais vous y avez déjà partiellement répondu en mentionnant le coût de financement d'une telle mesure. Quel équivalerait à tout ça, à l'ensemble de ce que la sécurité sociale coûte actuellement, d'après ce que j'ai compris.
Alors oui, le risque, d'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans les sociétés néolibérales, hein, et en France en particulier, c'est-à-dire le risque qu'on ait une protection sociale de moins en moins financée par la cotisation, gérée par les partenaires sociaux et avec des garanties de revenus qui correspondent à un salaire antérieur, et de plus en plus une logique de protection sociale minimale, de filet de sécurité, et je dirais c'est ce qui est en train de se passer en France, puisque au nom du pouvoir d'achat, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, on a supprimé les cotisations sociales pour financer le chômage, et on observe aujourd'hui une reprise en main complète de l'assurance chômage par l'État, avec une réforme alors qui a été stoppée pendant la crise sanitaire parce que elle aurait produit des effets tellement catastrophiques qu'elle est plus tout à fait à l'ordre du jour, mais en tout cas une réforme de l'assurance chômage qui est une véritable casse sociale pour les plus précaires. Donc avec l'idée de mettre à côté de ça quelque chose qui s'appelle un revenu universel d'activité, hein, comme quoi c'est devenu presque un label, hein, mais ce revenu universel d'activité, c'est une fusion des minima sociaux qui n'est pas très généreuse, hein, si je puis dire, puisqu'il y a une conditionnalité renforcée au retour à l'emploi. Donc vraiment, avec le revenu universel, en fait, il peut servir à plein de choses, mais en l'occurrence, il peut être un levier néolibéral pour détricoter des acquis sociaux et puis mettre en place une protection sociale qui va plutôt dans le sens d'un moins-disant, d'une activation renforcée, d'une conditionnalité renforcée. Sous le nom de revenu universel, on peut trouver beaucoup de choses. Voilà.
Merci. Encore deux questions. Est-ce que c'est possible de les faire condenser? Je vais arrêter de prendre les questions. La troisième question et dernière question d'Anthony, c'est il y a de nombreux détracteurs du revenu universel et ils redoutent des effets assez néfastes sur l'économie. Est-ce que le revenu universel a inévitablement passé par des étapes intermédiaires et lesquelles, par exemple? Genre, j'imagine que il fait un parallèle entre mettre en place directement ou avoir une mise en œuvre progressive, j'imagine. Et après, je vais juste prendre la remarque de Claude encore sur le financement, qui est assez intéressante, je pense, parce qu'elle fait remarquer que la sécurité sociale se base sur les cotisations, donc qui sont sur la taxe des salaires, qui sont prélevés sur les salaires. Et que, au fur et à mesure que certains emplois sont remplacés par des machines et par la technologie, alors on a une assiette qui se réduit en termes de qu'est-ce qu'on peut taxer. Et donc, comment résoudre ce problème, ce dilemme?
Donc déjà, je vais répondre à la deuxième question. Parce que j'ai oublié la première, je commence à être un peu fatiguée, mais vous allez me la rappeler. Sur cette taxation des robots, hein, c'était l'idée de Benoît Hamon. D'abord, on manque complètement de preuves pour dire que les travail humain soit remplacé par des machines. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a eu beaucoup depuis les années 60 de rapports, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui ont prédit des destructions massives d'emplois en lien avec les nouvelles technologies. Il y avait un rapport Nora Mink, par exemple, dans les années 70 en France, qui prédisait des destructions massives d'emplois dans les services au cours des années qui allaient suivre. Et en réalité, il s'est produit tout l'inverse. En France, il y a eu 2 millions d'emplois créés, principalement dans les services. Donc, jusqu'ici, toutes ces prédictions de destruction d'emplois qui sont encore extrêmement débattues. Bien sûr, on a encore des rapports qui avancent l'idée que des millions d'emplois vont être détruits par l'informatisation et l'automatisation, mais pour l'instant, on n'a pas encore observé de manière très nette des destructions massives liées à l'automatisation. Jusqu'ici, la thèse du déversement, c'est-à-dire l'idée que il y a des emplois qui se détruisent, mais d'autres qui se créent. Et puis très souvent, en réalité, les machines ne remplacent pas l'humain, hein, c'est-à-dire qu'elles transforment le travail humain. Hein. Si on prend les caisses automatiques des supermarchés, en réalité, ça a transformé le travail des caissières parce qu'aujourd'hui, elles surveillent les caisses, elles aident les clients à enregistrer. Enfin voilà. Donc on n'a pas d'éléments pour l'instant pour évoquer un remplacement du travail humain, mais ça n'empêche qu'on peut quand même tout à fait réfléchir à un élargissement de l'assiette des taxes et des cotisations, y compris sur le capital. Hein, donc, si ça répond à la question, voilà, en deux temps. Et est-ce que vous pouvez me rappeler la question précédente que je me suis empressée de oublier ?
Oui.
Voilà.
Claude répond de nouveau, mais effectivement, oui, il y a des salaires qui sont moins du travail qui est moins intéressant, qui est créé de fait de la technologie et de l'armée des micro-travailleurs qu'on appelle, ou du travailleur du clic. Mais c'est un autre débat qu'on va pas commencer ici, parce que sinon on n'en finirait pas. Et donc la dernière question pour clôturer un petit peu cette partie question-réponse, c'est celle d'Anthony sur la mise en place progressive d'un revenu universel est-elle souhaitable ou est-ce qu'il faut sauter les deux pieds dedans?
Ouais. Alors, on peut très bien dire, mais après tout, faire un revenu un peu graduel, améliorer les minima sociaux, c'est pas révolutionnaire. Oui, c'est pas tout à fait révolutionnaire, je suis bien d'accord. Mais le risque, si on met les deux pieds dans un revenu universel, ça serait aussi d'accomplir un peu plus vite la révolution néolibérale. Hein. Donc, voilà, pour l'instant, je suis pas sûre qu'on ait tout à fait les forces pour la révolution, et je pense qu'elle a plus de chances d'advenir si on se bat pour les salaires, pour des choses qui feraient vraiment reculer les profits. Hein, voilà, il y a quand même des mouvements sociaux. Enfin, je veux dire, si on prend les gilets jaunes en France, si on prend les grèves dans pas mal de pays, les gens se battent pour les salaires, même s'ils revendiquent aussi le fait qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Et donc, je pense que il faut pas renoncer aussi à cette lutte-là. Hein. Un revenu décent, voilà, je suis tout à fait d'accord. Et on a l'outil de la réforme des minima sociaux, mais je pense que transformer le capital, je pense qu'on le transformera beaucoup plus en travaillant sur l'emploi, et peut-être ça renvoie à la question posée par Claude, en travaillant sur l'emploi, sur les salaires, un équilibre de la répartition primaire qui soit beaucoup moins favorable au capital.
Le point est entendu. Se focaliser sur les conditions de travail et les conditions de salaire est aussi très très important et une première lutte à mener. C'est une très bonne conclusion. Et je me permets juste de vous remercier, Anne-Edou, pour avoir accepté de nous joindre et de nous partager votre connaissance et de tous vos travaux de recherche. C'est vraiment un plaisir de vous avoir.
Voilà, merci à vous. Voilà, puis c'était bien d'avoir ce débat. Hein. Je pense qu'en un débat, on convainc personne, mais au moins, on partage, oui, et on échange et on nuance les points de vue.